Alors où est-ce que vous en trouvez ?
La question de qui sommes-nous, où allons-nous, pourquoi y a-t-il quelque chose qui ne signifie rien et qui les rend à l'autre, tout homme se la pose. Mais se la poser ne veut pas dire qu'il y a des âmes.
On n'entend pas.
Se poser cette question est inhérente à l'homme. Ce qui pourrait être anormal, c'est essayer de détruire toutes les réponses qui ont déjà été données. Quand vous parlez des rites ou de la Bible, ce sont des manières de s'exprimer que des hommes d'une certaine époque ont eues, et c'est extraordinaire. C'était déjà une réponse à leur manière, selon le langage, la considération, l'observation qu'ils faisaient de la nature, qui les a amenés à ce type de réponse. Bon, donc, nous, tel que nous sommes au 21e siècle, nous avons également en nous cette question lancinante et la possibilité d'y répondre à notre manière, avec notre langage. Voilà. Et selon la culture,
notre contexte.
C'est ça. Chaque individu ne peut y répondre que dans le contexte qu'il vit.
Voilà. Oui. Je ne suis pas sûr que vous avez entendu. Je voulais entendre. Oui, je vous en prie.
Plus confortable, plus intelligent que ça, ce serait peut-être d'éviter tout abus dans ce que vous avez appelé, dans votre première partie, le comportement quotidien. Il est certain que dans la vie conjugale, par exemple, un silence, un regard peut amener à des conclusions dramatiques.
Oui.
Voilà.
Alors,
c'est là peut-être que
vous mettez l'accent sur le comportement quotidien. Merci de me rappeler ça. J'ai oublié de dire, mais ça me paraissait des choix, mais je voudrais quand même revenir, que ce qui rend possible, alors là, des interprétations abusives, hein, c'est d'abord que le langage humain a une caractéristique que j'aurais dû signaler plus tôt, c'est qu'il est équivoque. C'est-à-dire que c'est le propre de du langage de s'offrir à des interprétations abusives. C'est-à-dire que ce qui fait la richesse de la langue, la multiplication des interprétations, c'est ce qui fait aussi le problème finalement. Ce qui fait que parfois on cherche midi à 14h, puisque les mots sont équivoques. C'est-à-dire qu'ils laissent place à des malentendus. Sous-entendu aussi parfois. Moi, c'est ça qui me frappe dans ce que j'essaie de dire, c'est que à chaque fois, le thème de l'interprétation met en jeu des forces et des faiblesses. La force du langage, c'est son équivocité, mais c'est ce qui fait aussi que parfois, on trouve du sens là où il n'y en a pas. Et ce qui m'apparaît, moi, c'est que c'est parce que on cherche le sens aussi naturellement qu'on respire ou qu'on voit, qu'on mange. Vivre d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la pensée, c'est être tout le temps dans une recherche de sens. Vous voyez, si par exemple en arrivant, je vous avais trouvé très silencieux, je me dis, ils ont entendu, j'aurais tout de suite cherché du sens. Et pareil, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est tout le temps, en train de parfois chercher midi à 14h. Parfois pas, hein, mais parfois oui. Voilà. Alors, oui.
Une méthode d'envoyer un message. On a aussi un exemple très précis. C'est le tableau de Guernica.
Voilà. Alors, mais Guernica, si on suit les analyses que je me suis référé par Derrida ou d'autres, hein, réduire Guernica à un message. Dire par exemple que ce tableau dénonce le fascisme, le bombardement. Par les nazis d'un village espagnol, c'est réducteur. Bien sûr que ce tableau évoque ce fait historique, mais on ne peut pas le réduire à ça. Il y a dans ce tableau ce que Bachelard appelle une auréole de sens, qui ne s'épuise pas. Moi, quand j'ai vu ce tableau pour la première fois, et je ne suis pas le seul, hein, j'ai eu plein d'images qui me sont venues, notamment liées à la tour romantique. Et c'est des images où j'ai l'impression, et je sais que c'est ce qu'on a souvent dit d'ailleurs, que le Picasso essaye de montrer l'animalité de l'homme. Hein. L'image du taureau est présente. Mais on ne peut pas fixer ça dans un texte définitif. Il y a une force du tableau qui fait que les images, elles sont mouvantes. C'est ça qu'on veut dire, en fait. Hein. Il ne faut pas réduire un tableau à, voilà, ça veut dire ça, 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 ça est terminé. Dans ces cas-là, on prend le texte et le tableau, on c'est pour éviter de comparer un texte à un tableau. Et les grandes œuvres, c'est ça. Hein. Une œuvre qui n'arrive pas, dit Bachelard, à susciter cette auréole d'image, cette sensation, c'est une œuvre qui n'est pas vivante. C'est une œuvre qui est morte. Il y a des tableaux qui ne nous inspirent rien, qui ne donnent à voir que la littéralité de ce qu'ils présentent. En général, on dit que ce sont des œuvres qui n'ont pas d'intérêt. Oui.
Les artistes et celui qui a trouvé son style.
Absolument. Et c'est pour ça que c'est ce qui a été mis en avant, c'est le style. Est-ce que le style veut dire quelque chose? Alors oui.
Une œuvre, ça ne déclenche pas la réflexion, ça doit d'abord déclencher les sensations, l'émotion. Ce n'est pas du tout le même but. Après, oui, on peut aller peut-être plus loin. Mais l'œuvre, le propre de l'œuvre, c'est ça.
C'est l'émotion.
C'est l'émotion.
Et donc, ça
nous atteint d'une autre manière. Plus primitive, on va dire.
Oui, c'est pour ça que le thème de l'interprétation, pour l'art, c'est peut-être là où la notion d'interprétation a été le plus malmenée. Et interpréter, c'est donner du sens. Mais donner du sens, c'est tuer l'œuvre. Voilà. Comment sortir de ce cercle vicieux? Oui.
Dans le quotidien, il y a aussi la question des superstitions, la question aussi plus sociétale sur les théories du complot. C'est un peu paranoïaque.
Je voulais en parler au début.
Il y a des raisons de trouver.
Je voulais en parler quand j'ai parlé de, vous savez, du paranoïaque. Ah, puis après, bon, j'ai été pris par le temps, mais par exemple, je pense que vous faites allusion à ça. C'est vrai que c'était un axe que j'aurais pu un peu plus développer. Bon, sur Internet aujourd'hui, vous avez des tas de complotistes qui vous disent, voilà, George Bush ou tel président a fait ça, c'est le signe d'un complot. Ou bien sur les billets de banque, il y a l'œil, donc c'est le nouvel ordre mondial. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, je me demande même si on n'est pas dans une espèce de paranoïa collective, là, chez ces personnes, hein, où là, pour le coup, on cherche vraiment midi à 14h, quoi. C'est-à-dire, on cherche du sens là où il n'y en a pas. Et ça devient. Vous avez vu, le gouvernement a même essayé de mettre en place des sites, des actions anti-fake news. Parce que ça devient une vraie guerre de l'information. Hein. Où ce qui est en jeu, c'est. C'est le sens, mais un sens complètement dévoyé.
Est-ce que c'est vraiment chercher du sens?
Ah ben, les complotistes cherchent du sens, ça, il n'y en a pas. Ils vont interpréter. Vous n'avez pas vu là, tous ces sites qui nous disent que il y a des, par exemple, les présidents américains, quand ils font, par exemple là, maintenant, c'est Trump, là, la manière dont il bouge ses doigts, il fait lever de la victoire, ce serait en fait parce qu'il serait affilié à une secte satanique. Et c'est délirant, quoi.
Ça ne me surprend pas qu'il soit affilié à une secte. Mais bon, c'est une interprétation. Hein.
Mais au niveau, moi je parle en tant qu'enseignant, quoi. À chaque fois que j'ai fait des débats sur ces sujets, j'ai été stupéfait d'apprendre que pas mal de mes élèves croyaient qu'il y avait un complot mondial des Illuminati. Et ils interprétaient certains événements, certains faits, dans le sens d'un complot. C'est-à-dire que, voilà, on est bien dans la guerre du sens, là. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'Illuminati. Ils font crépéter, en fait. Hein. Il y a les Illuminati, ils sont derrière... Et puis alors là, il n'y a rien à faire. Quoi. Rien à faire. Enfin, je veux dire, moi, comme s'ils abandonnaient tout sens critique. Oui.
Oui, à propos de complot, il y en a qui ont la peau dure et qui perdurent depuis pas mal de temps. Et je crois que c'est les chevaliers de Sion, ou je ne sais quoi, un ordre mondial qui serait. Enfin, des gens.
Le prieuré de Sion.
Le titre m'échappe un petit peu, c'est le complot des chevaliers de Sion, ou je sais plus quoi, bon, quelque chose comme ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les juifs et les francs-maçons comploteraient pour régner sur le monde. Et ça, ça dure depuis, depuis très, très, très longtemps, quoi. C'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Et il y a des résurgences, et régulièrement, cette histoire ressort, c'est hallucinant, quoi. Enfin, c'est hallucinant, ça veut dire que je prends partie déjà si je dis ça. Hein.
Ouais,
donc, mais ça me semble démesuré.
C'est la rumeur,
c'est
ça.
Oui, enfin, la rumeur, je sais pas.
La rumeur, oui, mais c'est surtout une. C'est une folie du sens. C'est-à-dire que là, le travail d'interprétation qui, je vous l'ai dit, est naturel, on interprète tout le temps. Là, se met à déraper. Et on devient fou.
Oui, c'est
comme une roue qui tourne. Comment?
C'est du non-sens.
C'est
trop de
sens. C'est trop, c'est un sens abusif. On va interpréter, je vous l'ai dit, allez demander à plein de gens qu'est-ce qu'ils voient sur un billet d'un dollar. Ils vont vous dire on voit les signes du complot des Illuminati. Parce que vous savez, il y a la pyramide.
Mais ce qui est dangereux aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui a accéléré le phénomène, c'est que si on ne croit pas à tel ou tel complot, entre guillemets,
ouais,
on est considéré naïf ou on est manipulé.
C'est ça.
Donc c'est un petit peu comme
en
arrivant sur Marx, c'est-à-dire ouais, que si on argumente contre le marxisme, c'est parce qu'on n'a rien compris, on est mauvais, etc. C'est un peu le même.
Oui.
Mais la même approche.
Moi, ce que je constate, c'est que cette orientation-là, elle a été démultipliée par les réseaux sociaux en particulier. Hein. Et je vois pas comment on peut s'en sortir. Vous avez vu, il y a eu un attentat en septembre, là, pas en septembre, là, à Strasbourg, quand on aurait. Ben, deux jours après, ou même un jour après, vous aviez des gens qui disaient c'est le gouvernement qui a fait ça pour détourner l'attention vis-à-vis des gens. Chercher midi à 14h, voilà, on y est là. Et c'est une déferlante, quoi. Moi, ce qui me frappe, c'est que toutes les inventions humaines, là, je vous dis quelque chose de ma philosophie, hein. Toutes les inventions humaines, elles ont toujours commencé par donner du bien, et puis après, le mal. Au début, quand vous avez les premiers vols liés à l'aviation, mais c'est merveilleux, Clément Ader, Blériot, 10 ans après, on a les combats, voilà, on a le Baron Rouge, on a la guerre aérienne. Internet, là, je pense qu'on est passé dans une phase où tout le mal humain s'étend, quoi. Parce que vous avez des harcèlements par Internet, des collégiens ou des lycéens qui se suicident, ça. Vous avez la haine qui se répand, quoi. C'est frappant, quoi. Moi, j'ai l'impression que, ça y est, on est passé au stade où maintenant, une invention, la technologie d'Internet, là, va pouvoir exprimer tout le mal humain. Enfin, c'est peut-être simpliste hein, ce que je dis, mais. Et en particulier par cette guerre de l'information qui est une guerre de l'interprétation.
Et cependant, dans Vérité et Méthode, l'interprétation, c'est le fonctionnement le plus naturel de notre intelligence. Donc, en fait, l'interprétation, comment dire, il y a une mauvaise interprétation, une bonne interprétation, et il y a porosité parfois entre les deux. La limite est tellement fine, tellement difficile à percevoir et à palper. C'est une approche très dure, en fait, très difficile, me semble-t-il.
Surtout au niveau psychologique. C'est pour ça que je vous disais, les auteurs ont insisté sur le fait que, par exemple, en psychanalyse, ce qui est important, c'est pas l'interprétation qu'on va donner à la puce, ou même un rêve, hein, d'ailleurs. C'est l'acte d'interpréter. Ce qui est important, c'est pas le sens réel d'un lapsus, c'est ce que nous on va y mettre. Parce que essayer d'interpréter un de ces lapsus ou un de ces actes manqués, c'est déjà faire un travail. Oui.
Comme il respire, quoi.
Ah oui.
Donc, c'est bon.
Oui. On voit comment un rapport naturel au monde, un rapport d'interprétation, se dévoie. Alors, allez-y.
Pour reprendre votre remarque concernant la manière dont une invention peut devenir néfaste à l'humanité, c'est la fameuse « la langue est la meilleure et la pire des choses des autres ». Donc, devant toute nouveauté, il y aura cette double face. Or, l'homme n'arrêtera pas de chercher. C'est en lui. Donc, nous revenons à un problème d'éducation. Pourquoi y a-t-il cette fureur des réseaux sociaux? Parce que tout le monde, maintenant, cherche éperdument à savoir dans l'immédiat ce qui se passe. Mais est-ce nécessaire? D'abord, c'est destructeur de la réflexion. Il n'y a plus le recul nécessaire. Donc, c'est un problème d'éducation. Alors, ça demande beaucoup de temps. C'est dans la durée que la chose doit se faire. Là, on est dans un immédiat tout à fait bouleversant. Donc, je ne pense pas que ce sont des lois qui vont permettre de le réduire. Je crois que là aussi, il faut que chacun réfléchisse à la manière dont il use ou abuse de tous ces moyens techniques qui sont mis à sa disposition. Voilà. Et puis, en ce qui concerne nos convictions, pourquoi ne pas relire la Bible avec délice comme une œuvre littéraire? Lorsque j'ai appris qu'il y avait la psychanalyse des contes, ça date déjà de quelques années, et que j'en ai eu le récit, je me suis sentie perdue. Je gardais un souvenir tellement merveilleux de tous les contes qui avaient veillé mon enfant que j'étais attristée d'en connaître l'interprétation. Voyez-vous ?
Voilà, mais c'est l'interprétation de Bethlehem. Ah, je voulais en parler aussi de la psychanalyse des contes de fées. Puis je pouvais pas parler tout. Tout le monde connaît ce texte, non ? Psychanalyse des contes de fées. Ah, vous répondez pas ? Alors voilà, Ouais, mon micro la prochaine fois, c'est un monde réuni. Alors, oui, on parlait du texte de Bruno Bethlehem qui s'appelle La psychanalyse des contes de fées. Bethlehem est un célèbre psychanalyste américain qui, dans cet ouvrage, demeurait célèbre, essaie de montrer que derrière les contes de fées les plus connus, il y a un contenu inconscient qui s'exprime, qui a une fonction psychologique, qui est de faire en sorte que les enfants passent certaines étapes psychiques. Et les contes, ces contes-là en particulier, les aideraient ou porteraient au niveau de l'expression symbolique, bien sûr, des angoisses, mais qui leur permettraient de dépasser ces angoisses. Alors, il y a des analyses célèbres, par exemple, il y a le chaperon rouge. Et l'interprétation que donne Bethlehem au grand conte de fées peut choquer. Et c'est normal qu'il choque, puisque pour Bethlehem, le contenu caché de ces contes se réfère à l'inconscient. Et je vous ai dit ce que l'inconscient comporte comme refoulé, quoi. Donc, des symboles, des éléments des contes les plus connus, par exemple, le prince charmant. Ah oui, il y a la belle voix dormant, par exemple. Il y a Podane. Podane, c'était facile, faut dire. Avec le père amoureux de sa fille, mais voilà, il va trouver des contenus oedipiens, des contenus très sexualisés, et effectivement, ça choque. Mais ça choque si on n'est pas psychanalyste, quoi. La question est de savoir si l'interprétation de Bethlehem est la bonne. Ben, il n'y a aucun moyen de savoir.
Est-ce qu'on a besoin de chercher du sens?
Chercher du sens me paraît sain, en fait. Si on ne cherche pas du sens à quelque chose, on vit, on boit, on mange, on dort.
La question c'est quand est-ce qu'on arrive à cette folie de l'abus. Je termine avec Bethlehem. Hein. La Belle au Bois dormant, le prince charmant, prince Philippe, je vous rappelle, qui va trouver la Aurore dans la version que tout le monde connaît, qui est belle. Hein. Le prince charmant arrive, pose ses lèvres sur celle d'Aurore et elle se réveille. Et bien Bethlehem, lui, va chercher une version plus ancienne où le prince charmant, il ne pose pas ses lèvres. Il fait quelque chose d'autre. Je ne peux pas décrire. L'extrême plus brutal, vous voyez. En fait, voilà. Avec lui, si on va chercher une version plus ancienne, donc angoisse du viol, refoulé. En même temps, ce sont des interprétations cohérentes, quoi. Cohérente avec la psychanalyse et avec son système. Mais oui.
Est-ce que je peux dire que finalement l'interprétation se nourrit de symboles?
Ah oui. Complètement. Et là aussi, c'est ce qui fait sa force ou sa faiblesse, puisque les symboles, alors, peuvent donner lieu à plusieurs sens. Et les symboles ne sont pas univoques. Justement, sinon on serait dans l'allégorie. Ce qui différencie, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, mais ce qui différencie allégorie et mythe, parce que dans les mythes, il y a des symboles, justement. L'allégorie, c'est... il y a des signes. Le symbole déploie tout un panel de sens. Ce qui fait que c'est ça qui rend possible et la pluralité d'interprétation et en même temps les abus d'interprétation. En même temps, la pensée symbolique, et ça c'est très intéressant, vous avez plusieurs auteurs qui nous disent que la forme première de la pensée, la forme la plus archaïque, c'est la pensée par symbole. Avant de penser par concept, l'homme pense par des symboles, par des rébus, si vous voulez. Hein. Et Freud va même jusqu'à dire que c'est pour ça que dans le rêve, on retrouve une forme très archaïque de la pensée, puisque le rêve s'exprime par rébus, par symbole. Un mot pour un autre, par métaphore. La métaphore, c'est la forme la plus archaïque de la pensée. Après, on passe à l'abstraction avec des concepts. En fait, on est tous des enfants du symbole, puisqu'on a tous commencé par avoir une pensée symbolique. Regardez les enfants, ils peuvent prendre un objet, ils disent ça, cette pierre, ça va être une feuille de salade. Il y a un rapport naturel de l'enfant à la pensée métaphore. Et donc à l'interprétation de ça. Oui.
Il y a un livre, c'est récent, sorti de ce qui s'appelle Sérotonie. Et il est difficile d'échapper à l'interprétation.
De Sérotonie, oui. J'ai entendu, mais c'est son dernier.
Oui, c'est le dernier.
Ah ben, je
vais. Ou alors, on se pose plein de questions.
Oui. Alors, ben merci pour la référence. Alors, est-ce qu'il faut parfois chercher midi à 14h? Voilà, c'est clair. Oui.
Bah justement, par rapport à ça, par rapport à la théorie du complot, mais c'est aussi chercher midi à 14h, comme par exemple cette histoire d'attentat qui aurait été un. D'accord, mais là, les gens, en fait, ils se posent ce genre de questions parce qu'en fait, en face, ils ont des informations qui sont tronquées ou qui ne sont pas, ou qui se révèlent plus ou moins justes du fait de la communication qui n'est pas claire ou qu'on peut, qui peut porter à se poser des questions ou à des critiques, parce qu'on n'est jamais sûr que cette information, en fait, elle soit juste les faits, elle est toujours interprétable d'une manière ou d'une autre, et donc là, les gens se peuvent se sentir manipulés, et là, on n'a aucune certitude, même grâce à tous ces effets, enfin, à tous ces réseaux sociaux, même à l'appui de l'image de la photo. On sait très bien à notre époque que tout peut être manipulé, tronqué, retravaillé d'une manière ou d'une autre. Donc toutes ces théories-là, elles sont vraies, elles sont pas vraies, on peut. Voilà. Mais en fait, ça vient aussi d'une communication qui est décalée. Et où les gens se posent des questions, parce que bah oui, on cherche du sens. Mais dans la mesure où l'information, elle est omniprésente, elle est presque excessive, et où en plus, bah, on a toutes ces orientations, on finit par se chercher midi à 14h. Et on est dans un brouillard terrible. Enfin, je veux dire que c'est un peu la société. On est dans un brouillard, on se sent oppressé, on est un peu dans cette peur, ou alors il y en a qui sont dans le pays des bisounours, quoi. Mais enfin, c'est...
Oui. Mais ce que vous dites là, c'est... Moi, ça prouve qu'on
est un peu dans l'absurde.
Pas sur le panneau de l'information officielle. Les gens ne croient plus les informations.
Non.
Et à partir de là, ça ouvre la porte aux interprétations, parfois. Oui. On ne croit plus BFM. On ne croit plus les actualités à la télé, en gros.
Et parce que par le passé aussi, on a pu avoir justement des informations. Alors maintenant, il faut les prendre aussi avec des pincettes, où on nous a dit ça c'est vrai, puis après finalement c'était faux. Par exemple, la guerre du Golfe, où il y avait des armes de destruction massive, vous avez eu. Voilà, donc c'est des choses graves aussi.
Ah oui.
Quoi penser?
Oui.
Il y a le problème aussi de l'immédiateté. Voilà. On n'a pas assez de recul. On ne prend pas le temps de prendre du recul. C'est ce qui est c'est inquiétant. On veut tout de suite. Et on oublie très vite. Tout est très rapide.
Oui.
On perturbe le sens, le désir de sens.
On n'a plus le recul, hein, ça, voilà. On est dans l'immédiateté. La prochaine fois, j'amènerai une sono avec un micro, comme ça vous entendrez les questions. Oui. Parce que c'est vrai que là, on ne s'entend pas, quoi. Alors, moi, il y a des pans de la réflexion que j'ai pas abordé, parce que c'était déjà assez vaste comme ça. Mais là, puisque on a un peu le temps là pour discuter, je voudrais quand même vous dire ce que j'ai pas pu vous dire avant. Vous avez vu que j'ai pas abordé le travail d'interprétation dans les sciences. Bon, c'est un peu plus vite, hein. Mais là aussi, ça ne manque pas. Le travail de la science, c'est un travail d'interprétation. Un phénomène, on n'en découvre pas la loi, simplement de manière passive. L'anecdote sur laquelle Newton a découvert la loi de la gravitation universelle en recevant une pomme sur la tête, c'est une légende. En tout cas, s'il a vraiment reçu une pomme, c'est pas comme ça que ça se passe.
C'est un travail d'interprétation ou d'extrapolation ?
Non, d'interprétation.
C'est plus fausse une intuition.
Bien sûr. Mais où se situe l'interprétation ? Vous avez un résultat, et ce résultat, qui est lié à une expérimentation qui a été faite, il faut l'interpréter. C'est-à-dire, il faut essayer d'en tirer la loi, d'en comprendre les mécanismes profonds, de proposer des modèles d'interprétation. Si, par exemple, vous savez qu'il existe en ce moment, en Suisse, à Genève, un accélérateur de particules, on sait. On accélère les particules, et on s'aperçoit que lorsque on arrive à télescoper, voilà. On les casse, en fait. Hein. Vous savez, il y a une espèce après de... C'est comme sur une plaque photographique. C'est plus complexe, en fait. Hein. Mais on peut découvrir des éléments. Comment est-ce qu'on va interpréter ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on peut interpréter...
Le boson de Higgs.
Voilà. Plein de choses, quoi. Hein. Il suffit pas de faire l'expérience. Après, il faut l'interpréter. Et moi, ce que je voulais dire, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que au niveau de l'infiniment petit, hein, la théorie dominante est extrêmement puissante, hein, qu'on appelle la physique quantique. C'est vraiment une physique qui est très difficile à interpréter, dont les résultats sont très difficiles à interpréter. Un des plus grands physiciens contemporains qui s'appelait Richard Feynman a dit, celui qui dit, moi j'ai compris ce que c'est que la physique quantique, il n'a rien compris à la physique quantique. Parce que c'est une physique qui donne des résultats tellement étonnants, tellement étranges, qu'on a l'impression que cette physique met à mal toutes nos tentatives d'interprétation. Je vais vous donner un exemple. Hein. L'exemple le plus célèbre, et après vous allez voir les interprétations qui ont été faites. Hein. L'exemple le plus célèbre, c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'intrication quantique. Vous savez que lorsque Einstein a élaboré sa théorie de la relativité, celle-ci partait du principe que la vitesse de la lumière est indépassable. Rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, qui avoisine 300 000 km à la seconde. Rien ne peut aller plus vite. Et le fait que la lumière, sa vitesse soit une constante, a des conséquences énormes, notamment sur le fait que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Eh bien, en physique quantique, on s'est aperçu que deux particules pouvait avoir une relation étonnante qu'on appelle intrication. Et lorsqu'on agit sur une des deux particules intriquées, l'autre particule va avoir une réaction instantanée. Je simplifie. Hein. Si par exemple on modifie ce qu'on appelle le spin, la rotation d'une particule par des procédés X et Y, hein, l'autre particule se voit modifiée dans sa rotation instantanément, même si elle est à l'autre bout de l'univers. Et cette relation instantanée va plus vite que la lumière. Ça, c'est pas possible. Alors, Einstein ne comprenait pas, c'est pas le seul. Hein. Il disait, je ne pouvais pas concevoir une action fantôme entre les deux particules qui instantanément transmet une information plus rapidement que la vitesse de la lumière. C'est pas possible. Celui qui a montré que
ça se passait bien comme ça, qu'il y avait bien l'intrication, c'est un Français. Ça, c'est une des plus grandes injustices de l'histoire des sciences des dernières années. Il n'a pas eu le prix Nobel. Il s'appelle toujours, parce qu'il est toujours vivant, Alain Aspect, A-S-P-E-C-T, monsieur Aspect, qui est aujourd'hui au Collège de France, a fait une expérience en France, dans la fin des années 70, qui montre que l'implication quantique, ça existe vraiment. Il y a des particules, elles sont instantanément corrélées, et si on les modifie, la modification se fait instantanément plus vite que la vitesse de la lumière. Et comment c'est possible ça? Puisque rien ne va plus vite que la lumière. Et alors, il y a une interprétation célèbre, et vous voyez, là, on a le... Je rejoins le thème de l'interprétation, parce qu'il y a plein d'interprétations. C'est celle d'un monsieur qui s'appelle Basil Bohm, B-O-H-M, c'est un physicien, qui a eu une idée géniale. Il a interprété en s'appuyant sur une image. Et là, vous voyez, l'interprétation, ça devient le fait de trouver une image. Il a dit, voilà, les deux particules sont intriquées. Dès qu'on en bouge l'une, l'autre, instantanément, elle bouge, même si elle est à l'autre bout de l'univers. Comment c'est possible? Et il dit, imaginez un poisson. Voilà. Dans un bocal, on a deux caméras. Une caméra qui filme le poisson de face. Et ce poisson qui est filmé de face, la caméra elle est aussi rétroprojecteur. On a l'image, on voit le poisson de face. On projette l'image sur un mur. Et vous avez une autre caméra qui voit le poisson sur sa longueur, ou sur sa largeur, enfin de côté quoi. Et donc on a deux images du poisson, une de face, l'autre de profil, sur sa longueur, et là, le poisson filmé sur sa longueur, ça projette une autre image. Donc on a deux images distinctes. Deux images du même poisson. Vous savez quoi? Lorsque le poisson bouge la tête, en même temps, il bouge son corps. Mais nous, on croit que c'est comme on a deux images distinctes. On a l'impression que c'est deux particules, deux poissons différents. C'est le même poisson qui bouge son corps. Et on a l'impression que ce sont deux poissons différents. Vous avez compris l'image? Donc maintenant, si on applique ça à la physique, les deux particules intriquées, on a l'impression qu'elles sont deux. Mais en fait, derrière, il y a une réalité unique. Comme le poisson, qui est unique. Il y a une réalité unique, mais qu'on ne voit pas. Il y a une réalité unique, qu'on ne perçoit pas par nos sens, mais qui serait sous-jacente à la réalité perçue. Ce qui veut dire, dit Bohm, que le réel que l'on perçoit, c'est une partie d'une réalité beaucoup plus vaste, qui échappe aux sens, et qui est invisible à nos sens. Ce qui voudrait dire, dit Bohm, que la physique doit, pour comprendre l'implication, admettre qu'il y a une partie de la réalité qu'on ne voit pas, qui nous est cachée. Comme le poisson entier nous est caché par les deux images qu'on a de lui. Et là, quand on parle de réalité cachée, invisible, plus riche, parce que le poisson entier, il est plus riche que les deux images qu'on a de lui. Et une réalité cachée, plus riche, et cette réalité-là, ça nous amène tout droit vers la métaphysique, un monde qu'on ne voit pas. Alors vous allez me dire, mais Bohm, il est pas trop loin. Et bien on a eu une autre preuve que ce qu'il dit, c'est vrai. Et cette autre preuve, on l'appelle la décohérence quantique. Puisqu'on a fait une expérience à travers des formes, ce qu'on appelle les formes de Young, on s'aperçoit que lorsqu'on essaie de faire passer des particules, alors des photons, à travers une forme, c'est un dispositif, hein, ça va, mais dès qu'on essaye de faire passer une particule à travers deux fentes, on a l'impression que la particule, elle se dédouble. Il y en a deux qui passent alors qu'il n'y a pas une réalité. Et en fait, on s'aperçoit que la particule, elle peut être dans plein d'endroits différents à la fois. C'est uniquement la mesure et l'observation de la mesure qui va réduire la particule qui est dans plusieurs endroits à la fois à une seule. Et c'est ce qu'elle veut dire. Au départ, le réel est infiniment plus vaste que ce qu'on voit. Puisque dès qu'on le perçoit, il y a ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire, tous les autres possibles s'effondrent, mais on ne voit qu'un réel. Bon, j'ai été vite, hein. Autrement dit, aussi bien au niveau de ce qu'on appelle la décohérence quantique qu'au niveau de ce qu'on appelle l'intrication, les expériences nous amènent à interpréter le résultat de la manière suivante. Il existe un réel plus riche, plus vaste, plus complexe qu'on ne perçoit pas. C'est faux. Et bien maintenant, si vous dites ça, si vous évoquez cette question-là dans un dîner avec des physiciens, il y a un grand silence gêné. Je peux vous dire, la conversation passe tout de suite à autre chose. Vous savez quels sont les mots qu'il ne faut pas prononcer, hein. Vous avez compris qu'il y a un peu de vécu dans ce que je dis. Les mots conscience, avec les physiciens, vous ne payez jamais le mot conscience. Ça y est. Et il ne faut surtout pas parler du problème de la mesure, parce que c'est le problème dont je vous ai parlé. Parce que alors là, ça va créer de gros problèmes. Il faut rester dans le cas. Vous voyez, là on est dans le domaine de l'interprétation. Et le seul, je tiens à dire publiquement, le seul qui a osé, en dehors de Bob, bien sûr, dire que la physique nous amène vers l'idéalisme, c'est-à-dire remettre en question le matérialisme et que la matière, hein, c'est un certain Eugène Wigner, W-I-G-N-E-R, prix Nobel de physique, s'il vous plaît, qui a dit que la physique, les résultats de la physique quantique, nous amènent du matérialisme à l'idéalisme, c'est-à-dire à l'esprit, à l'idée que le réel ne se construit qu'en lien avec la conscience. C'est ça l'idée. Il a osé. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais c'est une injustice. Bob, après, on a considéré qu'il virait vers le mysticisme. Et c'est la voie de la physique quantique. Remettre en question le lien traditionnel entre la matière et l'esprit. Et ça passe par des interprétations. Et je vous ai dit, des interprétations idéalistes, c'est la voie naturelle et en même temps, c'est la voix qui sent le soufre. Parce que la science n'aime bien que parler de la matière. Dès qu'on sort, ça peut se comprendre, hein. Dès qu'on sort de l'examen de la matière objective, quoi. Ah ben là, il y a des problèmes. Donc, tout ça pour vous dire que la physique quantique est certainement la théorie en physique, hein, la plus étrange, la plus étonnante et la plus porteuse de sens, quoi, qui est produite toute l'histoire des sciences. Et elle s'offre à de multiples interprétations, dont l'interprétation idéaliste, multiple, parce que certains vont dire, mais non, mais ils ont dû se tromper dans les calculs, c'est pas possible. C'est une manière vraiment de nier le phénomène de l'interprétation quantique. Donc voilà, vous voyez, le problème de l'interprétation, il se pose. Hein. Il se pose en biologie, il se pose pas. Donc, pour toutes les sciences. Alors, est-ce que vous avez encore des... Il nous reste 10 minutes. Allez, 10 dernières minutes.
À l'heure actuelle, les astrophysiciens et les physiciens sont plus ouverts, vous semblez le dire, à reconnaître qu'il y a des domaines qui ne peuvent pas, qui ne se prêtent pas à la vérification, mais qui se prêtent à la réflexion. Il y a un Chinois en particulier, là aussi.
TXT, non ?
Oui, sur lequel il écrit sur la lumière des choses extraordinaires. Et il a encore sorti un ouvrage l'année dernière.
Ushiokaku ?
Oui, quelque chose comme ça. Excusez-moi de dire comme ça, c'est ce qui est moche, surtout parce qu'il est extraordinaire. Mais il est ouvert à ces questions de métaphysique.
Eh bien, je vais vous répondre. Je repose la question pour tout le monde. Est-ce que les physiciens ne sont pas plus ouverts aujourd'hui, hein, c'est ça ? Moi, ce que j'ai perçu dans mon expérience personnelle, hein, en particulier quand j'étais à Toulouse, c'est qu'il y a les deux cas. D'abord, quand Stephen Hawking, vous savez, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, quand il a écrit à la fin d'une brève histoire du temps, son premier, quand il a dit « Pour moi, les lois de la physique sont la pensée de Dieu », tout le monde lui est tombé dessus. Après, il s'est calmé. Hein. Dans ses derniers livres, il ne parle plus de Dieu. Hein. Il dit l'origine de l'univers, c'est les trous noirs. Avant, il disait c'était la pensée de Dieu. Donc là, il a compris la leçon. Mais vous avez aussi des gens, et souvent ce sont des gens, je suis désolé de le dire, hein, qui ont une formation et de philosophe et de scientifique, qui disent ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la science ne peut pas couvrir tout le champ de la réalité. Elle n'explique qu'un domaine. Je pense à deux personnes en particulier, l'un que je connais bien, c'est Aurélien Barraud. Il a écrit un petit livre qui s'appelle, il y a 2 ou 3 ans, ça, La vérité dans les sciences, où ils disent ce que je vous dis. Et Aurélien Barraud, qui enseigne à Grenoble, il a aussi un doctorat en philo. Il est physicien. Je pense aussi à Étienne Klein. Vous savez qu'il est professeur de philosophie des sciences à Polytechnique. Lui aussi, Ah oui, parce qu'il se le permet. Lui aussi, des fois, il franchit la frontière, mais parce que c'est un des plus philosophes des sciences. On leur dit rien. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de scientifiques, avec raison certainement, qui disent attention, la science, au niveau métaphysique, ça doit être la grande muette. Parce que la physique s'arrête là où la métaphysique commence. Quoi. Un scientifique qui parle de métaphysique, il outrepasse ses droits. Parce que l'objet de la science, et de la physique en particulier, c'est pas l'esprit, c'est la matière. Le problème, c'est qu'avec la physique quantique, on voit bien qu'il y a des événements, il y a des phénomènes qui font intervenir l'observateur, sa conscience, la mesure. Le problème de la mesure est très complexe. Hein. Voilà, donc comment est-ce qu'on peut faire de la physique aujourd'hui sans parler du rôle de l'observateur? C'est pas possible. Et si vous parlez du rôle de l'observateur, vous parlez d'un sujet conscient. Et donc vous outrepassez vos droits. Et si vous outrepassez vos droits, bien vous vous taisez. Et si vous vous taisez, vous faites tout physique. Donc voilà, il y a un vrai problème, quoi. Alors, certains appellent de leur vœu une nouvelle science qui serait capable d'intégrer la conscience, c'est-à-dire le rôle de l'observateur, dans les phénomènes physiques observés. Moi, je vous dis ce que j'en pense, c'est pas encore là. Parce que ça voudrait dire qu'on renonce à une manière de faire la science qu'on a acquise avec Galilée, c'est-à-dire depuis la Renaissance. La science, son triomphe, sa force, c'est qu'elle désubjective son jeu. C'est-à-dire qu'elle enlève tout ce qui a référence au sujet. Une loi physique, on peut en parler comme si c'était quelque chose qui existait en dehors de tout être humain, de tout observateur. Et dès que vous faites entrer la conscience, tout à l'heure je vous ai parlé de l'intrication quantique. Je vous ai dit, deux particules intriquées, elles réagissent de la même manière, même si elles sont à l'autre bout de l'univers. Mais je vous ai caché quelque chose, c'est pour pas vous choquer. Hein. Il y a maintenant des expériences qui montrent que si on modifie une particule intriquée dans le présent, sa particule intriquée dans le passé change aussi. Ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'on peut modifier légèrement au niveau, en tout cas corpusculaire, on peut modifier le passé. C'est-à-dire que l'espace et le temps, en fait, ce ne sont pas des réalités en soi, c'est des données de la conscience. Ils n'ont pas des réalités objectives. C'est comme si, c'est difficile à comprendre, hein. Dans la fameuse expérience des fentes de Young, lorsqu'on fait passer une particule par une fente, elle va avoir un comportement, cette particule, qui va dépendre de l'observateur. Si on fait une certaine opération sur la particule qui a passé par la fente, on s'aperçoit par ce qu'on appelle les expériences à choix retardés. On s'aperçoit que la particule va se modifier aussi dans le passé. Alors c'est très compliqué, mais ça veut dire qu'en fait, il y a une influence du présent sur le passé au niveau des particules. Et ça veut dire que ni l'espace ni le temps ne sont des réalités en soi. C'est la conscience, l'espace et le temps. La conscience qui organise l'information. Bon, c'est compliqué après, hein. Mais vous vous rendez compte les difficultés d'interprétation après en physique, parce que ça suppose alors que tout ce qu'on croyait être la base de la physique tombe. Et ça change complètement le regard sur le monde. C'est Einstein qui disait « Je ne peux pas concevoir que la Lune que je vois n'existe que parce que je la vois. » En fait, elle n'existe pas parce qu'on la voit. Mais c'est la conscience qui accueille la manifestation. La Lune, elle existe certainement, mais sous une autre forme. Peut-être une forme d'information. Une forme non visuelle. Et c'est parce qu'on la voit qu'elle va se manifester sous une forme visuelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça ne veut pas dire que le monde n'existe pas si je ne suis pas là. Ça veut dire qu'il existe dans l'apparence où il se donne à voir, par ma conscience. Et le premier à l'avoir dit, c'est quand même Kant, je le rappelle. Ça s'appelle l'idéalisme transcendantal. Donc voilà, donc la physique rejoint les bords de la métaphysique. La métaphysique, c'est la science d'interprétation par excellence. Et voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je vous garantis que ça va être exaltant. Il faudra beaucoup l'interpréter. Voilà, on termine pour aujourd'hui.